Chère audience, bon après-midi. Comme si on est en Suisse, on commence pile poil à 17h30. La Suisse, le pays natal de Sophie Teuber, un de nos artistes de cet après-midi. Avant de nous lancer dans cette présentation sur l'Aubette à Strasbourg, j'ai le plaisir de vous présenter Marielle Pohlmann, experte en matière des couleurs, notamment de l'architecture moderne, auprès des monuments historiques, le service du ministère de la Culture aux Pays-Bas. Et en parallèle, elle est également enseignante à l'Université d'Amsterdam dans le même domaine. Moi-même, je suis en partie son interprète de cet après-midi. Et puis, je suis ici dans la qualité, entre-temps ancienne qualité, du président de l'association Theo van Doesburg à Strasbourg, un organisme qui s'investit dans la conservation et la restauration de l'Aubette. L'Aubette, donc, monument historique en quelque sorte partagé avec les Pays-Bas, dans la mesure où cette œuvre, du moins pour la partie qui appartient à Theo van Doesburg, fait partie de notre patrimoine culturel partagé avec la France. Partagé comme, bien sûr, le bâtiment se trouve en Alsace, à Strasbourg, mais surtout du fait que pour le mouvement du Stijl aux Pays-Bas, dont Theo van Doesburg était le grand animateur, c'est un des œuvres phares, pour ne pas dire emblématique, à tel point qu'on pourrait dire que l'Aubette est mondialement connue, surtout aux Pays-Bas, peut-être moins à Strasbourg même. C'est sous cet angle, cette perspective que nous allons, disons, dévoiler un peu les caractéristiques de cette œuvre et notamment le projet de restauration qui a eu lieu en deux étapes. Premièrement, aux alentours de 1994 pour la première salle que nous allons voir tout de suite, et puis la deuxième étape qui s'est terminée en 2006 avec la restauration des seules salles encore restaurées à ce jour. Il s'agit d'une œuvre de trois artistes. À commencer peut-être par la dame, Sophie Teuber-Arp, qui, en tant que conjointe de Hans Arp, connaissait bien Strasbourg et a trouvé, disons, les contacts nécessaires avec les promoteurs du grand projet de l'Aubette, les frères Horn. Cet exercice se situe dans une période presque haussmannienne à Strasbourg, où la ville était, et disons les entrepreneurs, étaient très intéressés en, disons, enfin, créer de grands espaces au centre-ville, complètement asphyxiés par les constructions. Et donc, il y avait plein de possibilités de réinvestir et de faire revivre le cœur de cette ville. L'Aubette, à la place Kléber, était au cœur de ce projet. Et puis, il faut reconnaître que Strasbourg, à cet égard, donc à l'égard du développement de l'urbanisme, mais aussi du développement de l'art, se trouvait parfaitement à cheval entre Berlin et Paris, pour des raisons différentes et à des dimensions différentes. Et donc, il y avait une tentative de faire venir à Strasbourg quelque chose de cet esprit qui régnait dans cette période entre les deux guerres, dans ces deux grandes métropoles. Les protagonistes, les frères Horn, André le pharmacien et Paul l'architecte, étaient des grands amateurs d'art, et c'est aussi à cet égard qu'ils étaient, disons, jour le jour en contact avec la scène culturelle à Strasbourg. Ça a duré extrêmement longtemps pour que, disons, l'importance de ces salles et de cet édifice était reconnue à Strasbourg. C'était grâce, je crois, à la majorité dirigée par Catherine Trottmann à la fin des années 80, début des années 90, qu'un premier pas a été fait avec la restauration du Cinébal, suivi par la nouvelle majorité qui a suivi, de Robert Grossman et de Fabien Keller, avec l'appui notamment de Fabrice Ergot, à l'époque directeur des musées de Strasbourg et actuellement à Paris, à l'hôtel, au musée de la ville, le musée de l'art moderne de la ville de Paris. Je cite à cette occasion tout de suite les autres disons, partenaires dans le projet de restauration, Olivier Ditsch, l'architecte de la ville de Strasbourg, Daniel Guémard, qui représentait disons, la DRAC, ensemble avec Simon Piéchaud, et puis, pour ne pas l'oublier, le comité scientifique composé d'Evert van Straaten, à l'époque directeur de Kröller-Müller aux Pays-Bas et grand connaisseur de l'œuvre de Theo van Doesburg, appuyé par Isabelle Evic, maître de conférence à la Sorbonne, et Marielle Polman en tant que chercheuse, notamment au niveau des couleurs. Ici, vous voyez le bâtiment, la façade de Blondel, 18e siècle, conçu comme d'abord une caserne, d'où le nom Aubette, ça se réfère à l'aube et la prestation des armes à la levée du jour. Et puis, vous la voyez ici au sein des salles avec à gauche Sophie Teuber et à droite ou inversement, dans leur atelier à la place Kléber. Theo van Doesburg, également dans le Cinébal, nous allons découvrir d'autres images encore après. L'image à côté avec le peintre est importante dans la mesure où cette image montre bien que lorsqu'on parle d'un ouvrage d'art, c'était bien des peintres, des artisans qui faisaient le travail physique. Au niveau de la restauration, c'est un élément qui va revenir dans la présentation de Marielle Polman plus tard. Pour vous rappeler un peu les caractéristiques du mouvement de Steyl, quelques images. D'abord, à gauche, la couverture du mensuel de Steyl, dirigé par Theo van Doesburg, est principalement l'organe pour développer la pensée de ce mouvement. Mouvement qui connaissait plusieurs artistes de renom, à commencer par Mondrian, l'architecte Van Eestere, et peut-être Rietveld, dont vous voyez en bas son œuvre, disons, emblématique à Utrecht, classée monument patrimoine mondial entre-temps, avec à droite l'intérieur. Donc, un autre exemple du style de Steyl dans l'élémentarisme développé par notamment les deux Mondrian et Van Doesburg. À droite, vous voyez la maquette de la maison d'artistes développée et présentée lors d'une exposition à Paris, édifice qui n'a jamais été réalisé, mais il y a toujours des promoteurs qui cherchent une occasion pour pouvoir enfin réaliser ce bâtiment exemplaire. Passons rapidement à l'Aubette même. On a déjà vu la façade. En dessous, vous voyez le plan du rez-de-chaussée dessiné par Van Doesburg. Ce rez-de-chaussée est perdu au niveau des anciens salons. Tout a été, disons, détruit ou est perdu avec la différente occupation qu'a connue ce bâtiment. À l'étage, ça c'est toujours le rez-de-chaussée, avec des images à gauche en haut du 5 o'clock de Sophie Teuber et le café-restaurant conçu par Partey von Doesburg y inclut son mobilier. Petit détail, peut-être c'est connu chez vous, mais c'était disons un ensemble qu'on appelle le Gesamtkunstwerk, où les artistes ne se sont pas limités, si vous voulez, à la décoration des espaces, mais ont compris dans leur activité l'ensemble de l'opération, et inclut le mobilier, la faisselle, enfin tout le lettrage. Il y avait le tout compris dans leur projet. En bas, une image du caveau dancing de Hans Arp. Vous connaissez sans doute son style pré-morphologique. Ici, on monte à l'étage, avec à gauche le cinébal, au milieu le bar, et à droite la salle de fête, et à droite en bas l'escalier, où en fait les artistes ont largement travaillé ensemble. Permettez-moi de rajouter quelques mots sur les caractéristiques notamment de l'œuvre de Theo van Doesburg. Si Lobet est très connu aux Pays-Bas, ça vient aussi du fait que Theo van Doesburg a beaucoup écrit, a beaucoup développé sur ce qu'il a réalisé à Strasbourg, et beaucoup moins les deux autres artistes. C'est pourquoi peut-être les quelques salles conçu par Partey von Doesburg vient toujours sur le devant. Ça vient aussi, je crois, que lui, dans son approche, était le plus extrême. Il a développé toute une théorie à cette activité qui consiste de appliquer les principes de l'élémentarisme aux trois dimensions, donc dans l'espace. Ce qui est important chez lui, c'est la place de la couleur. Pour lui, la couleur n'est pas un détail ou un aspect secondaire, mais est à la hauteur de l'architecture même, et donc est au cœur de la création. Et à tel point que la couleur doit en fait créer, ensemble avec la géométrie de l'espace, la création. Ce n'est pas donc des dimensions disons physiques qui font l'architecture, c'est la couleur qui donne en fait l'âme à cet espace, qui crée l'atmosphère représentée par l'architecture. Cette sensibilité pour la couleur, et si vous voyez disons les murs et les plafonds, pour ne pas dire la décoration, parce qu'il n'a pas du tout présenté de cette manière, vous comprenez à quel point le travail de recherche nécessaire pour reconstituer ces deux salons, cinébal notamment et salle de fête, était important. À ce point, je crois qu'il importe maintenant de passer la parole à Marielle Polman, et là je transfère mon rôle en interprète, parce qu'elle présentera son discours principalement en langue néerlandaise. Dernière image, la façade à l'époque, dans les années 20 et 30, et vous voyez bien, on aurait pu dire que cette image vient quelque part de Paris. Je peux vous assurer, à ce jour, on ne trouve pas une telle situation, une telle ambiance dans cette belle ville, d'ailleurs, à l'est de la France. Pour les Strasbourgeois, l'aubette était un peu trop avancée dans le temps, et vous le voyez, Theo von Doesburg, assez rapidement, a fulminé contre les exploitants de ces bâtiments, et vous voyez comment son œuvre a été rapidement transformée avec toutes sortes de nappes et de guirlandes et encore d'autres choses pour cacher en fait son intérieur considéré comme beaucoup trop austère pour le public strasbourgeois. À tel point que, après quelques temps, l'ensemble était recouvert par un tout nouveau intérieur. Voilà.
Goedemiddag. Hier zien we de Cinebouw zoals die is gerestaureerd in 1994. En dat gebeurde in verouderde kleuren.
Vous voyez donc l'intérieur après la restauration en 1994. Élément essentiel, la restauration a été faite sur la base des couleurs vieillies.
Dit is gebruikelijk in de restauratie van gebouwen, dat in oude gebouwen ook de verouderde kleuren worden toegepast.
Dans la restauration et la conservation des bâtiments, c'est tout à fait normal que la restauration se fait dans les couleurs vieillies, donc qui réfèrent à l'origine de la création.
Misschien bent u in de gelegenheid geweest om het Rijksmuseum na de restauratie te bezoeken. En daar zijn ook de kleuren verouderd teruggebracht.
Elle cite l'exemple du Rijksmuseum à Amsterdam, où les couleurs ont été disons, renvoyées à la période de la construction de ce musée.
De originele stuklagen in deze zaal zijn afgeplakt met papier en daaroverheen zijn de kleuren geschilderd.
Dans cette salle, les surfaces d'origine ont été recouvertes de papier et c'est le papier qui a été peint dans les couleurs donc vieillies.
Van Doesburg wilde dat je onderdeel werd van het kunstwerk.
L'objectif de Theo van Doesburg était de créer disons une œuvre où le public est dans l'œuvre, ne regarde pas mais être, disons, absorbé par l'œuvre même.
En het ziet er geweldig uit als je binnenkomt.
Ça impressionne lorsqu'on y entre.
Maar in detail zie je dat het mat is, dat je het papier ziet, dat je de textuur van het papier ziet.
Si on regarde de plus près, on voit que disons, les couleurs ne sont pas disons, brillantes, alors qu'on voit également la texture du papier utilisé.
En kleur was essentieel in het idee van die eenheid, dus dit wilden we niet zo aanpakken.
Comme la couleur était tellement élémentaire dans la reconstitution, on n'a pas choisi pour cette méthode pour l'autre salle.
Dit was de salle de fête voor aanvang.
Voici la salle de fête au moment du démarrage de la deuxième étape de la restauration.
Het was mogelijk geweest om de grijze laag weg te halen en te restaureren, de zaal te restaureren.
Il était en principe possible de disons, faire revenir la couche d'origine en gris et de poursuivre la restauration de cette manière.
Maar omdat het was uitgevoerd door schilders, is ervoor gekozen om echt voor de heldere kleuren te gaan en het te reconstrueren.
Et ici on revient à cette image où les peintres étaient en train de peindre les salles. On n'a pas voulu donc poursuivre la restauration sur la base du travail des artisans de l'époque, mais on a décidé de choisir d'opter pour faire revenir la couleur d'origine de, enfin, ici de Theo van Doesburg.
En er is het zou gebeuren op stuc.
Et ça a été fait sur du stuc.
Een nieuwe laag erop.
Voilà, donc le même matériau qui était utilisé à l'origine.
De kleuren zijn bekend omdat van Doesburg hele goede ontwerptekeningen heeft gemaakt.
La couleur était connue comme Theo van Doesburg à l'époque a tout dessiné dans des plans assez détaillés.
En het is ook bekend uit foto's dat die kleuren heel hoge glansgraad hadden.
Il est également connu que ces couleurs avaient une très haut degré de brillance. À travers les photos, vous le voyez ici.
En wat dus wilde ook, wat we ook wilden weten was van wat zijn nou precies de verven die van Doesburg heeft gebruikt.
Ensuite, on a examiné en détail quelle peinture Theo van Doesburg avait utilisé pour son travail.
En dat gebeurde door middel van stratigraphisch onderzoek en laboratoriumonderzoek.
Ça a été réalisé à travers des stratigraphies et des examens en laboratoire.
Hier ziet u hoe dat in zijn werk gaat. Links ziet u de dwarsdoorsnede van onder de microscoop en rechts ziet u de stratigraphie.
À gauche, vous voyez les coupures d'en dessous de le microscope et à droite les stratigraphies.
Van Doesburg, u ziet eerst een
là, vous voyez une couche gris rose. Et puis deux couches de base en blanc. Et cinq couches en couleur. Et ça a été fait chez toute la couleur primaire et le blanc. Et là, vous voyez la stratigraphie telle que trouvée sur le mur.
Het grijs en het zwart had maar één witte grondlaag.
Le gris et le noir n'avaient qu'une seule couche de base.
Van Doesburg wilde dat de kleuren dus heel helder en sprankelend waren.
Il voulait que les couleurs étaient très, très vives et très, disons, voilà, vivantes. La couleur était aussi assortie d'une couche de vernis. Donc là, vous voyez un exemple avec et sans vernis. Au milieu, c'est sans vernis et autour, c'est donc avec la couche de vernis. Et donc, c'est ce vernis qui détermine largement comment on a... comment on voit, comment on apprécie la couleur en dessous. Voici un exemple des deux couleurs jaunes. Ce qui est important avec la composition des couches de peinture, à gauche, donc, il a utilisé une couche jaune verte et jaune.
Deux couches jaune vert et une couche jaune rouge.
Rouge, voilà.
En bij het donkergeel gebruikte hij twee keer roodgeel en één keer groengeel.
Et donc, chez l'autre couche, l'autre couleur jaune, c'est l'inverse. Donc deux couches jaune-rouge et une seule couche jaune-verte.
Dat wil zeggen dat die gele wel een beetje en toch niet helemaal op elkaar leken. En dat is verwarrend.
Donc les deux couleurs jaunes se rapprochaient, mais pas tout à fait. Et donc ça crée des interrogations, des troubles. Donc toutes les couleurs ont été composées suivant les analyses dans le laboratoire. Et comme elle a retrouvé sur le mur, ça a été réalisé dans les 6 couches qu'elle avait trouvées. Pour la réalisation, finalement, on a limité le nombre de couches. Donc le peintre a choisi de prendre juste les 2 dernières couches sur un fond de blanc. Et vous voyez bien qu'entre gauche et droite, il y a une nette différence en densité. Et donc ça, disons, prouvé qu'il faut absolument, disons, mélanger, composer toutes les couches de peinture pour finalement arriver à la couche finale telle que conçue à l'époque. Donc les 6 couches, et pas juste les 2 dernières. Thierry von Doesburg a écrit dans ses articles qu'il a fait recours à Ripollin.
Maar de kleurkaart laat veel minder kleuren zien, dus ik denk dat er heel veel gemengd is, dat je niet zijn artikel zomaar kan vertrouwen.
Mais les brochures de Ripollin ne montrent qu'un nombre limité de couleurs différentes, et donc elle a développé la thèse que l'hypothèse que finalement, Theo von Doesburg n'a pas utilisé les couleurs de standard, mais il a fait des mélanges. À gauche, vous voyez 2 exemples de l'approche telle qu'appliquée pour le Cinibal, à savoir la reconstitution des anciennes couches directement sur le matériel d'origine. Et donc à droite, l'exemple comment se présente cette opération si on reconstitue à travers une nouvelle couche ici de stuc avec un même traitement qu'à l'époque.
Van Doesburg est heel tegenstrijdig in zijn teksten.
Van Doesburg se contredit régulièrement dans ses textes.
En zo is hij ook in zijn schilderwerk.
Et il en est de même pour ses œuvres. Ce n'est pas uniquement les couches ou les surfaces en jaune qui sont difficiles à distinguer, mais aussi la plinthe gris-vert et les bandes en gris. Donc ça, c'était le point de départ à gauche et puis la réalisation à droite. Donc là, vous voyez 2 images de la salle des fêtes. Il visait à ce qu'on devienne, disons, une unité avec l'espace en mouvement donc dans cet espace. Mais comme il y a... Wat is een lambrisering?
Lambris.
Comme il y avait un lambris avec, vous voyez, le radiateur.
Het is meer boven je hoofd.
Voilà, donc cet espace, cet univers commence au-dessus de sa tête.
Het is een beetje zoals in deze zaal. We zitten meer op het niveau van de lambrisering.
C'est comme ici, on est au niveau des lambris.
En het spectacle is daarboven.
Voilà, vous avez compris, le spectacle se situe au-dessus de votre tête.
Maar vervolgens wilden we ook cirkels op de vloer en gekleurde vloer.
En fait, Theo van Doesburg voulait, disons, un autre sol avec des cercles.
Maar zoals hier was er een parketvloer en dan krijg je dat effect ook niet.
Mais la salle était déjà équipée du parquet et je rajoute que les donneurs d'ordre n'étaient pas d'accord de remplacer le parquet.
Sophie Teuber in de bar pakte het anders aan.
Sophie Teuber a suivi un autre chemin.
Zij maakte drie ontwerpen. Eerst deze, dit is de vloer, de wanden en het plafond.
Elle a fait trois projets, dont ici le premier. Avec le sol et les murs, et, ainsi que le plafond.
Ça, c'est le plan.
Le deuxième plan.
Dit werd uitgevoerd.
Ce plan a été réalisé.
Maar werd overgeschilderd en daarvan is geen tekening bewaard gebleven.
Maar a été refait sur place sans qu'on ait disons, développé un plan. La recherche a permis, disons, quelques conclusions et encore quelques questions qu'on a résolues par la suite. Donc le deuxième projet était beaucoup plus développé que ce qui a été réalisé par la suite. Différentes couches de gris. Voici le résultat.
Zij gebruikte maar twee verflagen om de kleur te maken.
Elle n'a utilisé que deux couches pour la réalisation de cette salle.
Maar het interessante is omdat die vloer ook gekleurd is.
Mais comme le sol est également en couleur.
Krijg je veel meer het effect dat je inderdaad onderdeel uitmaakt van die kunst.
Il y a beaucoup plus cet effet qu'on est dans, à l'intérieur de l'œuvre d'art. Donc, si vous voyez un peu la configuration à l'étage, à gauche, la salle de fête, à droite, le cinébal. Et au milieu, le bar de Sophie Teuber.
En dankzij de reconstructie in heldere kleuren.
Grâce à la reconstitution dans des couleurs vives.
Kun je zien dat de bedoeling was dat je twee kleurrijke zalen had, een grijze kleur daartussen.
On peut bien voir que c'était envisagé d'avoir deux salles aux extrémités, disons, très présente et très vive, avec une salle au milieu plus modérée.
En dit effect was veel minder groot geweest als we het helemaal in verouderde kleuren hadden uitgevoerd.
Cet effet était beaucoup moindre si les salles auraient été, disons, reconstituées dans les couleurs vieillies de l'époque. L'escalier était un partenariat entre les trois. L'architecture vient de Theo van Doesburg. La peinture de Hans Arp. Pour le style, on a fait recours à des couleurs primaires, donc rouge, jaune et bleu. et puis le blanc, le gris et le noir. Donc la question se pose, d'où vient le brun? Si on regarde de plus près, on constate que à la fois Hans Arp, mais aussi Theo van Doesburg, ont utilisé le brun dans, dans leurs œuvres. On le sait aussi, comme les vitraux ont été développés par Sophie Teuber. Qui a également fait, disons, les vitraux dans l'appartement de Horn, Paul Horn.
Ook hier hebben we het bruin en het blauw gevonden en dat nageschilderd.
Et là, sur le mur, on a trouvé le brun et le bleu.
Opnieuw in twee kleurlagen.
En deux couches.
En interessant is dat je ziet dat Sophie Teuber gebruikte een dansstaal, la bank. En het maakt ook een soort beweging naar boven toe, die banen. Dus op de trap ga je, heb je echt die verticaliteit.
Sophie Teuber, qui était également danseuse, a dans ses œuvres utilisé le langage de l'arban. Et là, ici, dans l'escalier, on voit clairement le mouvement vers le haut par ses traits verticaux. Là, vous voyez le résultat. Le foyer, c'est l'espace en face. Il n'y avait pas suffisamment d'indices pour permettre une reconstitution. L'exposition est quand même inspirée disons, les autres salles et fait un bon ensemble. C'est un ensemble cohérent. Ici, vous voyez l'aubette dans son état actuel. Voilà, c'est ouvert, c'est exploité par le musée de Strasbourg et, si j'ai pu me permettre, les mercredis, jeudi, vendredi et samedi, c'est ouvert, les après-midi. Vous pouvez apprécier vous-même donc la différence entre les deux approches de reconstitution et de restauration du Cinébal dans les couleurs vieillies et dans les autres salles dans les couleurs disons fraîches.
Omdat het zo ontzettend belangrijk blijkt om op basis van heel goed onderzoek te kijken hoe van Doesburg en andere kunstenaars uit die tijd hebben gewerkt.
Comme il est extrêmement important de continuer de faire de la recherche sur les méthodes appliquées par ici Theo van Doesburg à l'époque.
Nous sommes très heureux que nous allons cette zomer un autre travail de Theo van Doesburg op deze wijze gaan onderzoeken in Villa Noailles, in Nièvre.
On est très heureux de pouvoir poursuivre cette activité cet été en Nièvre, dans la Villa Noailles. Cet après-midi, Madame Teunis et Postema de Boer sont également présentes. Et demain, Stéphane Boudin parle. Et donc, on est extrêmement heureux que ce projet de partenariat de Strasbourg aura une suite ici, en liaison avec la Villa Noailles, hier, cet été.
Wij denken dat de kennis van het materiaal ontzettend belangrijk is, ook nu nog om deze architectuur te begrijpen.
Nous croyons que la connaissance des matériaux utilisés est importante pour comprendre l'architecture de l'époque.
Dank u wel voor uw aandacht.
Merci pour votre attention.